Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
Grande guerre, le bras de fer entre civils et militaires.
Quelle organisation nous apportez-vous ? Des sous-secrétaires d'État de la guerre, dont les pouvoirs s'arrêtent à la limite de la zone des armées ? Deux ministères de la guerre, un ministère de la guerre à Paris, un autre ministère dans la zone des armées ?
À l'entrée en guerre en 1914, la République confie son sort à un chef militaire, à l'instar de Rome, qui souvent a remis les clés de la République à un dictateur qui se fichait au beau milieu des institutions. Le Cincinnatus français s'est appelé Joffre. Mais cette délégation provisoire pouvait-elle durer ? En décembre 1914, l'exécutif et le législatif rentrent à Paris et prétendent s'occuper de ce que le grand quartier général décidait seul à Chantilly. L'année 1915, puis l'année 1916 sont marquées par cette déchirure qui grandit. Au sein du pouvoir civil, ce sont les députés et les sénateurs qui disposent de la puissance d'expertise la plus grande, on entendait à l'instant. Abel Ferry, qui était parlementaire au front et faisait la navette entre les combattants et le Parlement. Puis c'est l'organisation du gouvernement qui s'étoffera en 1917, jusqu'à ce que les derniers mois, Clémenceau, président du Conseil, prouve que c'était lui qui conduisait la guerre. Foch, tout généralissime qu'il fût, était seulement l'exécutant. Le seul état-major ne dispose pas de la légitimité et de l'organisation qui permettent de mener dans la longueur une guerre globale. Les généraux allemands, pourtant, se sont obstinés dans cette voie. De Gaulle, dans son premier livre en 1924, fit remarquer qu'ils avaient ainsi perdu le fil de la nation. Leurs homologues français doivent en partie leur victoire au fait qu'ils ont fini par reconnaître la force de gouverner de la République.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Nicolas Rousselier, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai emprunté, vous me le permettez, le titre de votre maître livre qui vient de paraître chez Gallimard et qui s'intitule
La force de gouverner.
Où vous faites à la fois de l'histoire des idées politiques, on n'est pas à Sciences Po pour rien, mais aussi une histoire de l'organisation matérielle du pouvoir législatif et surtout du pouvoir exécutif. On peut peut-être commencer un petit peu avant 1914 et redire ce que vous expliquez longuement dans ce livre. La République avait sauvé l'honneur en 1870, elle avait sorti le pays de son isolement diplomatique les décennies passant, mais il y avait un impensé, c'est étrange, de la République quant au pouvoir militaire et à ses rapports avec lui.
Oui, je crois qu'il y a deux choses qui font le paradoxe en 1870 et 71, c'est que d'un côté, la République est arrivée sur le devant de la scène, non pas du tout à la manière de 1792 ou 1848, c'est-à-dire à la suite d'une révolution politique. En fait, la République est arrivée après un désastre militaire. Comme le disent les républicains eux-mêmes, c'est un peu une surprise. Il fallait ramasser le pouvoir par terre, c'est une expression de Jules Ferry, ramasser le pouvoir et le reprendre entre les mains de républicains. Donc il y a beaucoup d'improvisation, ils ne sont pas encore majoritaires dans le pays et ils doivent, en quelque sorte, sauver l'honneur par le gouvernement de la Défense nationale. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'ils ont fait ça, c'est-à-dire essayer de gagner la guerre après la défaite de Sedan, une fois qu'ils ont échoué, et comme vous le savez, à partir de février 71, l'Assemblée est à majorité monarchiste et conservatrice. Et il va y avoir, pendant les 5 années ou les 4 années et demie de l'Assemblée nationale, une majorité conservatrice monarchiste qui va en fait faire ce que j'appelle la constitution militaire de la France. Non pas la constitution civile elle-même, les fameuses lois de 1875, mais un ensemble de lois militaires extrêmement modernes, très nouvelles, qui s'inspirent évidemment de la Prusse, le modèle de l'état-major, la loi sur le recrutement. Donc la colonne vertébrale de la nouvelle armée, de l'armée nouvelle, si on peut dire, en 1872-73, elle est d'inspiration monarchiste. Autrement dit, les républicains se sont fait doubler par les monarchistes, et quand ils ont eux-mêmes la majorité, à la fin des années 70, ils ne vont pas bouleverser ce modèle. Ils vont le garder. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'urgence, on peut toujours craindre une nouvelle guerre. Donc l'outil qui est présent, on ne peut pas se permettre de le républicaniser à fond, on ne peut pas se permettre de faire l'idéal d'une nation armée, qui consisterait en fait à, par exemple, à supprimer l'armée permanente, à supprimer la caste des officiers pour la remplacer par le fameux idéal de la milice. Donc on ne peut pas se permettre de faire ça. Donc finalement, ils ont reçu un héritage qu'ils n'ont pas transformé.
Cependant, quelques-uns d'entre eux, et vous insistez sur le rôle de Jaurès, vous faites aussi de l'histoire des idées, ont pensé à théoriser cette armée nouvelle. Voici un témoignage d'un disciple de Jaurès qui a été sénateur-maire de la bonne ville d'Albi et qui se souvient en 1959 de la conférence qui eut lieu au lycée d'Albi au début du siècle, à la suite de laquelle Jaurès a écrit ce livre « L'armée nouvelle ».
Jaurès prononça son troisième discours au lycée d'Albi, le discours à la jeunesse. J'ai vécu cette journée auprès de Jaurès, avec son cousin, mon pauvre et cher Pierre Esquila, tué en 1915 à Perthes-les-Hurlus. Arrivé la veille de Paris, il était descendu comme d'habitude chez Pierre Esquila. Il s'était retiré quelques instants dans le cabinet de ce dernier, avait écrit son discours et l'avait mis dans sa poche. Quoi donc ? La paix nous fuira-t-elle toujours ? Et la clameur des hommes, toujours forcenés, toujours déçus, continuera-t-elle à monter vers les étoiles d'or des capitales modernes incendiées par les obus, comme de l'antique palais de Priam incendié par les torches? C'est sous l'empire de cette hantise que Jaurès se consacra de plus en plus à l'étude des problèmes diplomatiques et militaires.
Et l'armée nouvelle qu'il continue de rédiger à Albi veut distinguer l'armée de caserne, où le citoyen serait soumis, et c'est pas possible, à un régime d'obéissance, à une idée de présence de l'armée dans la nation, le fait militaire étant absorbé par le fait républicain.
Oui, l'armée nouvelle de Jaurès, c'est un plan, c'était même en fait une proposition de loi, un plan pour que, en gros, on transforme cette armée française qui, rappelons-le, dans ces années 1900, c'est aussi l'armée de l'affaire Dreyfus. Donc elle n'a pas bonne presse, c'est le moins qu'on puisse dire à gauche. Donc c'est transformer cette armée qui est composée à la fois de toute une caste, je reprends le type de vocabulaire de Jaurès, de toute une caste d'officiers qui font leur carrière, et puis de cette armée composée de citoyens qui sont conscrits, qui font leur service militaire, un service militaire assez long. Et tous ces citoyens, au lieu en fait d'exercer un métier de citoyen républicain dans le cadre de l'armée, ils sont soumis à un cadre d'obéissance. On leur parle très peu de république, évidemment, dans le temps du service militaire. Donc Jaurès dénonce cette schizophrénie qui existe sous la Troisième République, entre d'un côté un régime politique fondé sur l'esprit critique, la délibération, les opinions politiques, et puis de l'autre, une armée qui est la grande muette et qui fait taire aussi ses soldats et ses conscrits pendant le temps du service militaire. Donc pour lui, il y a tout un domaine qui n'a pas encore été conquis par la République, qui est justement le domaine militaire. Donc contrairement à beaucoup d'autres à gauche, il ne veut pas en fait faire l'impasse sur le militaire. Il ne veut pas critiquer le patriotisme pour le plaisir de la critique. Il veut au contraire proposer une solution républicaine qui intégrerait le fait militaire dans une grande République. Donc le modèle, c'est un peu comme la Suisse, c'est d'avoir des milices où le service militaire serait très court, il propose seulement 6 mois, et après les 6 mois, il y aurait en revanche des périodes assez nombreuses, je crois qu'il y en a 8, jusqu'à l'âge environ de 35-40 ans, des périodes où nous serions, enfin si nous avions vécu à cette époque-là, nous aurions été amenés à faire des périodes d'exercice militaire.
Enfin, il y aurait eu des périodes, parce que si nous avions vécu à cette époque-là, eh bien nous aurions fait un service militaire de 3 ans, loi de 1913, Jaurès mis en minorité, son armée nouvelle n'est qu'un plan et même un vœu pieux. Mais on aurait pu imaginer en 1913 que le président de la République, il était quand même le chef des armées, devienne le responsable de la conception de la guerre quand elle va éclater. C'est pas le cas.
Alors ça n'est pas le cas parce que là, il y a eu tout un travail depuis la démission du fameux président MacMahon, le maréchal MacMahon, en 1879. Donc depuis 20 ou 30 ans, il y a eu tout un travail qu'on peut vraiment appeler un travail républicain pour réduire presque à néant les pouvoirs du président de la République en matière militaire. Donc c'est vrai qu'au moment de MacMahon, par exemple, en plus c'était un maréchal, tenait par-dessus tout à être l'éventuel généralissime, en tout cas le commandant en chef, en cas de guerre. Il y avait encore à cette époque-là de Mac Mahon l'idée d'une fusion.
Mais après, on a limé.
Après, on a complètement séparé les deux perspectives. D'un côté, la République se pense comme un pouvoir purement civil, et aucun des membres du gouvernement civil, y compris le président, ne peut avoir de pouvoir militaire. C'est ce que j'appelle un peu une République désarmée. Puis de l'autre côté, le gouvernement civil accorde au commandement, donc un généralissime qui est un militaire, qui sera Joffre depuis 1911, on lui accorde du coup les clés d'une guerre possible.
Alors on se dit, c'est un dictateur, mais ça va pas durer longtemps, et c'est un dictateur à la bedaine républicaine, comme va nous l'expliquer ce portrait, extrait des grandes batailles du passé, et puis le dictateur à la bedaine républicaine sera le vainqueur de la Marne.
Avec le canon de 75, une arme étonnante pour l'époque, qui peut tirer 20 coups à la minute, on peut être tranquille. Nos armes feront merveille, affirment une fois de plus les généraux. À la tête des armées, un inconnu, Joseph Joffre, fils d'un tonnelier de Rivesaltes. Un polytechnicien qui a fait une obscure carrière coloniale dans le génie. Un général qui rassure. Il n'a même pas fait l'école de guerre, il n'appartient à aucun de ces clans militaires qui font peur. On l'a choisi pour sa bedaine républicaine et pour son intelligence tranquille.
Prenez le télégramme. Plus deux lignes. Général commandant en chef. Ministre de la guerre. La bataille de la Marne s'achève en victoire incontestable. Il ne reste plus qu'à gagner la guerre.
Alors ce dernier extrait, Nicolas Rousselier, où on entend l'accent supposé être celui de Rivesaltes de Joffre, est issu d'une des émissions auxquelles avaient accès les comédiens anciens combattants à Radio France. C'était en 1960. Joffre était assez content que le gouvernement et le président de la République et le Parlement se retrouvent expédiés, exfiltrés à Bordeaux. Les élections sont suspendues pendant toute la durée de la guerre.
Et c'est Joffre qui a intimé en quelque sorte un ordre qui ne dit pas son nom, mais qui a intimé au gouvernement l'ordre de partir de Paris pour se réfugier à Bordeaux.
Et lui, il est où ?
Alors lui, il reste au Grand Quartier Général.
Il est
à Chantilly. Oui. Donc il exerce cette dictature. Alors le mot dictature ne doit pas faire frissonner les auditeurs, parce que c'est un mot qui est en fait employé à l'époque, qui est presque revendiqué comme tel. C'est-à-dire que c'est pas du tout indécent de penser qu'il peut y avoir une dictature nécessaire le temps de la guerre, parce que la guerre est considérée comme une campagne. C'est-à-dire une campagne de quelques mois. Donc dans ce cadre, c'est presque un cadre républicain. On confie une dictature au militaire, à charge pour lui de gagner une bataille qui à elle seule peut gagner la guerre. Et puis une fois que c'est fini, le pouvoir civil peut reprendre les rênes de...
Oui, mais la guerre dure plus longtemps que prévu et le pouvoir civil, il va quand même chercher à revenir de Bordeaux. Ce sera fait en décembre 1914. Le président de la République, Poincaré, est un homme qui se tient très informé, et puis qui manipule un peu comme un mentor le président du Conseil de Viviani. En même temps, il est très respectueux, expliquez-vous, des responsabilités ultimes du président du Conseil. Mais le président du Conseil n'est pas à Matignon, il n'y a pas de Matignon à l'époque, il n'y a pas beaucoup d'organisation, parce que vous faites aussi beaucoup d'histoires organisationnelles du gouvernement. C'est plutôt du côté du Parlement qu'il y a davantage de moyens d'expertise et de puissance.
Oui, exactement. C'est vraiment quelque chose qui est très différent de l'époque actuelle. D'ailleurs, c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre. Qu'à l'époque...
La force de gouverner chez Gallimard. Vous me tendez une perche. Là.
Voilà. C'est vrai qu'à l'époque, quand on regarde les choses de manière extrêmement concrète, où se trouvent les conseillers, où se trouvent les personnes les mieux informées, où se trouvent, on va le dire de manière un peu subjective, les personnes peut-être les plus intelligentes, les plus capables, eh bien on les trouve du côté du Parlement, du côté des commissions parlementaires, ce qui leur donne une force à la fois pour critiquer ou contester, ou en tout cas demander les informations nécessaires sur la guerre. Côté gouvernemental, un président du Conseil, il est obligé de prendre un portefeuille ministériel pour avoir, et c'est pas grand-chose, un cabinet. Donc quelques personnes autour de lui. Mais ces quelques personnes ont l'habitude de faire en fait le travail de lien avec le Parlement. Ce sont pas des personnes qui sont des experts, par exemple, pour permettre à un ministre vraiment d'intervenir directement dans la matière.
Les commissions de l'armée au Sénat présidées par Clémenceau, commissions qui s'occupent des affaires économiques, commissions qui s'occupent des affaires étrangères, il y a des séances du Parlement.
Oui, le Parlement reprend ces séances à la fin du mois de décembre, mais surtout en fait à partir de 1915. Donc à partir de 1915, on a quelque chose de très nouveau. La guerre dure beaucoup plus longtemps que prévu. Rien que cela jette un peu déjà un discrédit sur l'ensemble des militaires qui avaient, entre guillemets, vendu aux civils l'idée que la guerre pourrait durer peu de temps. Et puis surtout, le fait même que le Parlement soit réuni, ça enclenche tout le système de contrôle parlementaire, tout ce qu'a été le Parlement à cette époque-là. Le Parlement est le centre du pouvoir. Et surtout, à l'époque, les membres du Parlement ont une conscience, mais c'est une conscience presque, si vous me permettez l'expression, tripale, la conscience d'être la nation, d'être les seuls représentants de la nation. Évidemment, ce sont les seuls qui peuvent se targuer d'être les élus du peuple.
Ils portent les créances des poilus devant tous les pouvoirs.
Oui, il n'y a qu'une seule élection nationale, directe au suffrage universel à l'époque, c'est celle des élections législatives. Donc les députés peuvent se dire les seuls représentants du peuple.
Trois recommandations à nos auditeurs. Votre livre, La force de gouverner, je le redis, Nicolas Rousselier. La publication des carnets du général Beuat, qui vient d'avoir lieu chez Perrin. C'était le chef d'état-major du ministre de la guerre, Millerand, et il trouve les séances du Parlement ignobles. Et puis, une exposition consacrée à la musique au musée de la Grande Guerre de Meaux, où il est question du Rosoir, des sœurs Boulanger, mais aussi, évidemment, de Ravel, dont on entend un trop bref extrait du tombeau de Couperin. C'est une interprétation par Boulez et le Philharmonique de New York.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En ce 11 novembre, avec Nicolas Rousselier, nous parlons du rapport entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire pendant la Grande Guerre. On a passé le cap de l'automne 1915, qui a vu d'ailleurs le premier président du Conseil de la Grande Guerre, Viviani, remplacé par Aristide Briand. On voit les critiques qui montent face au grand quartier général de Chantilly de Joffre, qui est engorgé de responsabilités, tandis que les civils, le président de la République en particulier, et les parlementaires ont, eux, des informations de plus en plus précises, de plus en plus nombreuses, sont les lettres qui viennent du front. C'est aussi le travail d'enquête des parlementaires, et puis c'est aussi le témoignage permanent des parlementaires qui sont en même temps qu'au Parlement, au front. Alors ça, c'est une grande question. Il y avait deux normes républicaines qui étaient incompatibles, apparemment. Les députés et les sénateurs sont mobilisables au nom de l'égalité, mais en même temps, ils demeurent les élus du peuple.
Et c'est la fonction d'élu du peuple qui l'a emporté. Contrairement à ce que voulait justement le grand quartier général, on a des textes et des lettres envoyées par Joffre ou par les gens de Chantilly disant qu'ils ne voulaient pas de ce va-et-vient. Et ce va-et-vient a été imposé par les parlementaires parce que justement ils avaient cette aura sacrée d'être les représentants du peuple. Donc il y en a certains qui ont choisi de ne pas revenir à Paris suivre les séances du Parlement, qui ont décidé d'être complètement soldats. D'ailleurs, la plupart étaient des députés de droite. Par exemple, le colonel Drian. Il y en a d'autres, en revanche, qui ont voulu jouer sur les deux tableaux, avec donc, ça s'est fait sur le tas, ça c'était pas vraiment prévu au départ, mais avec donc cette conséquence essentielle pour comprendre l'évolution de la guerre, ils apportaient des informations de première main sur ce qui se passait sur le front, et ils informaient leurs petits camarades de la Chambre des députés ou du Sénat. Et donc, il y a eu un flux d'informations que n'avait absolument pas prévu le grand quartier général ou les services de la censure, parce qu'au fond, la classe politique, la classe parlementaire se trouve assez vite, assez bien et assez précisément au courant de ces fameuses offensives meurtrières qui ne réussissent pas la trop fameuse percée. Et donc, les critiques commencent très tôt, dès 1915. On voit par exemple un président Poincaré qui a lui-même ses propres antennes vers le front, être lui-même extrêmement hostile, extrêmement remonté contre ce parti pris de l'offensive.
Et a fortiori, après le début catastrophique de l'affaire de Verdun, nous sommes maintenant, Nicolas Rousselier, en 1916, et se tient le premier des comités secrets de la Chambre des députés. Il y avait eu des comités secrets déjà pendant la guerre de 1870. Un comité secret, qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas de public dans les tribunes ?
Voilà, il n'y a pas de public, il n'y a pas de publication des débats. Sur le moment, il y a une sténo qui est tenue des débats, mais ça n'est pas publié. Donc, c'est évidemment l'idée que les secrets ne seront pas divulgués et que donc, dans un comité secret, on peut dire des choses qu'on n'ose pas dire en temps normal. Et on peut notamment critiquer vertement aussi bien l'état-major que le gouvernement.
Ça va être fait face au président du Conseil Briand en juin 1916. On a la sténo, on a restitué ce débat. Vous savez qu'au Vieux Colombier, avec des comédiens du français, la marche de l'histoire se consacre à cette tâche de salubrité publique. Le prochain rendez-vous, notez-le, chers auditeurs, c'est le 30 novembre. Ici, nous étions avec Thierry Ancis dans le rôle d'Abel Ferry, un de ces parlementaires au front, peut-être le plus fameux neveu de Jules Ferry.
De défaillance en défaillance, vous obligez maintenant la Chambre, pour sauver le pays, à prendre à votre place vos responsabilités. Le peuple peut, par ses représentants, faire entendre sa volonté.
Ouais. Bravo.
Au milieu de tant de périls et de difficultés, quelle organisation nous apportez-vous ? Des sous-secrétaires d'État de la guerre ? Dont les pouvoirs s'arrêtent à la limite de la zone des armées ? Deux ministères de la guerre, un ministère de la guerre à Paris, un autre ministère dans la zone des armées ? Bien que nous ayons le matériel, nous n'avons pas pu construire de voies ferrées. Et dans l'éclair sanglant du ciel de Verdun, cette vérité peut être proclamée à la tribune. Deux France, luttant séparément, chacune dans sa zone, contre le même envahisseur. Deux ministères qui s'ignorent et qui se passe les responsabilités comme on joue à la pelote.
Bravo.
Alors évidemment, on peut dire a posteriori, voilà, qui va favoriser les crises ministérielles. Briand va finir par devoir démissionner, il va y avoir deux cours, gouvernement Ribot et Painlevé. En même temps, les parlementaires représentent l'opinion des combattants et de la famille, et ils disent, nous parlons aussi, au nom du pays de demain, qui nous demandera des comptes.
Oui, c'est ça. Et là, on voit dans ce discours, il pourrait presque ressembler à un discours à la Saint-Just, mais en réalité, c'est un discours qui pointe le doigt sur l'essentiel. Il prononce le terme d'organisation. Et donc, il montre qu'il y a un dysfonctionnement en 1916 entre, d'un côté, le grand quartier général, qui fonctionne en fait comme un ministère. C'est pas simplement un directeur des opérations, c'est aussi le grand quartier général de Joffre développe une diplomatie militaire avec les autres états-majors. C'est lui qui organise par exemple l'offensive de la Somme avec les Britanniques.
S'occupe d'économie,
alors de tas de choses.
Alors qu'il est débordé en fait.
De tas de choses. Il devient débordé. Et puis de l'autre côté, il y a le ministère de la guerre qui est resté à Paris et qui est en fait assez faible, qui ne contrôle pas le militaire. Donc le problème central, c'est que le pouvoir civil n'a pas les organes expert pour contrôler celui qui conduit la guerre. Celui qui conduit la guerre, c'est le généralissime. Alors qu'en fait, la guerre étant tellement nouvelle, tellement moderne, il faudrait que la conduite de la guerre soit entre les mains du gouvernement civil. Et là, en 1916, on n'a pas encore trouvé de solution. Il y a un hiatus.
En fin 1916, le grand quartier général de Chantilly est démantelé et Joffre va quitter ses fonctions. La solution, elle va venir aussi, dites-vous, Nicolas Rousselier, pas seulement de la pression du pouvoir législatif, qu'on a vu, très importante, mais de l'organisation du gouvernement plus efficace, plus rationnelle. Vous aimez bien parler de taylorisation, c'est peut-être un peu excessif, mais Souribeau est Painlevé, président du Conseil, bref, et oublié, on crée le secrétariat général du gouvernement.
Voilà, c'est les moins connus, Ribaud en 1917 et Painlevé aussi en 1917, juste quelques mois au pouvoir. Alors qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué, parce que Ribaud était ministre des Finances depuis le début de la guerre, donc il était bien placé pour voir ce qui ne marchait pas dans le mode de fonctionnement des discussions en Conseil des ministres. Il faut bien prendre, voir les choses de manière concrète, c'est-à-dire qu'en fait, le Conseil des ministres était complètement débordé par l'afflux de décisions à prendre. Donc il fallait lui aussi l'organiser. Et Ribaud a commencé à organiser donc le type de débat. Il a voulu réduire le Conseil des ministres à 2 heures, montre en main, et en laissant les décisions les plus opérationnelles prises par un petit comité, donc une sorte de super Conseil des ministres. Donc il y a toute une forme d'organisation qui commence à apparaître, et notamment avec ce qui est l'ancêtre de ce qui est aujourd'hui le secrétariat général du gouvernement à Matignon, et qui apparaît comme secrétariat général à la présidence du Conseil. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais c'est nouveau, parce que en fait, jusqu'alors, les républicains, la tradition républicaine a une grande méfiance à l'égard de tout ce qui est bureaucratie. Tandis que là, on se dit, face à tant de décisions à prendre, on est obligé de créer une nouvelle bureaucratie.
Et tout ça se concrétisera encore plus nettement. C'est bien connu, on va le rappeler juste pour mémoire, pendant le légendaire gouvernement Clémenceau, qui travaille avec un petit groupe de collaborateurs. On l'entend ici avec son chef de cabinet militaire, le général Mordac. Et on va comprendre, c'est un téléfilm d'Olivier Guignard de 2012 avec Didier Besas, que le pouvoir militaire doit céder aux conceptions du civil.
C'est aux politiques de diriger les militaires. Je prendrai mes responsabilités, je commanderai. Mes respects, monsieur le président. Je travaillerai avec vous tous les jours, mon général. Je n'ai qu'un seul objectif, gagner la guerre. Je vous écoute.
Dans les mers du Nord, à la frontière suisse, le front est stable. Mais nos dernières offensives au chemin des Dames et dans la région d'Ypres ont provoqué des pertes terribles. Tout est bloqué, monsieur le président.
Tout est bloqué, mais il ne suffit pas de constater, Mordac. Il faut rompre le front.
Nous manquons d'hommes, de matériel, notamment de chars d'assaut, d'avions et de canons. Il faut attendre l'arrivée des renforts américains. Mais jusque-là, monsieur le président, il faut tenir.
Non, ce n'est pas avec la défensive qu'on gagne une guerre, Mordac, vous le savez bien. Et puis les généraux doivent savoir que c'est moi qui décide de la stratégie. C'est aux civils de commander.
Oui.
Demain, il faudra l'armée des chefs capables d'audace. Il faut y réfléchir, Mordac.
Alors le printemps 18 sera très difficile avec l'offensive allemande. Clémenceau a failli être mis en minorité. Il trouve en Foch le généralissime idéal, celui qui exécute avec le même entêtement viscéral dans la recherche de la victoire que celui de Georges Clémenceau. On a évoqué le livre du général de Gaulle au début. Le général de Gaulle dit « Les empires centraux ont fait trop confiance aux états-majors, il ne faut pas perdre le fil de la nation ». Vous travaillez maintenant, Nicolas Rousselier, à une comparaison moins attendue avec ce qui se passe en Angleterre.
Oui, parce que ce qui m'a intéressé après avoir fait ce livre, c'est aussi de constater, et c'est un peu la réflexion aussi de Gaulle, que la Première Guerre mondiale a été au fond une grande surprise en termes politiques. Les régimes que l'on croyait forts avant la guerre, comme les empires, en tout cas le Reich allemand, ce sont ceux qui se sont effondrés comme des châteaux de cartes à la fin de la guerre. Et les régimes que l'on croyait faibles, comme la France de cette Troisième République qui change de gouvernement tous les 6 mois ou tous les ans, on la croyait incapable de faire la guerre, elle gagne la guerre. Et un autre pays que l'on croyait faible du point de vue de l'articulation avec le militaire, c'était l'Angleterre, la Grande-Bretagne, où là, il n'y avait pas d'armée permanente, il y avait une très forte tradition libérale qui considérait que c'était presque une atteinte aux droits de l'homme que de conscrire de manière obligatoire les hommes. Et cette Angleterre va changer pendant toute la période. Elle va imposer la conscription obligatoire et elle va aussi développer une nouvelle organisation du pouvoir. En Angleterre, les rapports entre les militaires et les civils sont très différents des rapports qui existent en France. C'est-à-dire que là, les militaires et les civils se concertent depuis le début de la guerre. Il y a notamment une raison très simple, c'est qu'il y a le monarque en Angleterre. Et le monarque, même s'il n'a pas de pouvoir direct, on ne peut pas ne pas l'informer. Et si on informe le monarque, de ce fait même, on informe le Premier ministre. Le Premier ministre civil, Asquith au départ, ensuite Lloyd George, ce sont des personnes qui ont été assez vite bien informées et qui avaient quand même la main sur les militaires. Alors eux aussi, ils ont fait des changements, des crises du haut commandement britannique. On a changé plusieurs fois le commandant en chef britannique. Et ce sont bien les militaires, surtout avec Lloyd George, qui étaient au pouvoir et qui avait cette capacité à devenir, ça c'est le concept de Gaulle, un conducteur de guerre.
Et c'est donc quand il y a une étroite association du pouvoir civil et du pouvoir militaire, et pas la domination du militaire, qu'une guerre en profondeur peut être gagnée. Votre livre « La force de gouverner », Nicolas Rousselier, c'est chez Gallimard. L'émission a été préparée par Frédéric Martin, avec Arnaud Caillet à la technique, et Stéphane Ronxin à la réalisation.